c'est pas ça.
Au pays des rêves, un mardi par mois à 21h sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à tous et à toutes, tu es bien sur Radio Campus Paris et tu écoutes le troisième épisode d'Au pays des rêves. Aujourd'hui, on va discuter de l'engagement politique des acteurs et des actrices de la scène techno et électro. Le mois dernier, dans le dernier épisode, on a discuté de la démocratisation de la techno. Et à la fin de l'épisode, on en a conclu que c'était important pour les artistes, pour les collectifs et aussi pour les clubs de s'engager politiquement et de faire partie des luttes. Alors pourquoi ? Bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette émission, donc je ne vais pas refaire l'histoire. Mais la techno, c'est un mouvement qui est engagé à la base avec des revendications politiques. C'est un mouvement inclusif qui se veut résistant aux normes dominantes. Donc aujourd'hui, on va explorer une question essentielle : comment s'engager en tant qu'artiste et faire de son art un levier de changement ? Alors certains, certaines utilisent leur art pour porter des messages forts et ouvrir des espaces de dialogue. D'autres créent des collectifs ou des événements pensés comme des actes de résistance. Mais ces engagements-là, ils peuvent aussi s'accompagner de défis comme le refus de jouer dans certains lieux, la perte d'audience, l'incompréhension ou même les contradictions internes au sein des milieux artistiques. Alors ce soir, pour cette table ronde, on est avec Ouri, qui est DJ et qui a une émission chez Call Me Radio, où il aborde la fête avec un angle politico-social. On est aussi avec Lara, alias Luz del Fuego, qui est DJ et résidente chez Sœur Malsaine, qui est un collectif féministe et intersectionnel qui organise des soirées où le maître mot est la liberté. Et Erel, alias Cuedas, qui est aussi résidente chez Sœur Malsaine, qui est chargée de prod et qui est aussi cofondatrice de Go Gwyn, qui est un collectif lesbien bi-pan, qui organise des teufs en mixité choisie. Et enfin, on est aussi avec Sibi, qui est DJ et cofondatrice de Rave Safe, qui est une asso qui accompagne les collectifs dans la mise en place de dispositifs de bienveillance et de réduction des risques. Alors on va discuter ensemble de tout ça. Bonsoir à tous et à toutes. On va essayer de mieux comprendre ce qui implique l'engagement dans le monde de la musique électronique et plus largement dans les milieux artistiques. Alors... Désolée, il y a un peu de bruit dans le studio. On s'installe tous et toutes et on est à l'antenne tout de suite. Bah, je vais en profiter pour vous poser la première question qui est peut-être la plus simple, mais c'est quoi, vous, les outils de lutte que vous avez pu mettre en place au sein de vos collectifs ou même juste aussi personnellement en tant qu'artiste, et comment vous faites pour encourager une scène techno plus engagée et plus militante ? Allez-y, je vous en prie. Qui va prendre la parole en premier ?
Bon, bah, du coup, je crois que je vais y aller. Du coup, moi, c'est Cuedas de Sœur Malsaine et cofondatrice de Go Gwyn. Les outils à titre personnel que j'ai pu mettre en avant ou utiliser dans mes collectifs respectifs, ça va être, du coup, genre, en fait, continuer le travail des personnes qui, avant moi, faisaient chargé de prod. C'était aussi, enfin, ça a continué, du coup, d'être en association avec les associations locales de réduction des risques et de violences sexistes et sexuelles, informer le plus possible le collectif et, en fait, radicaliser dans la parole féministe. Ou en tout cas, du coup, en fait, la radicalisation, elle était déjà en interne. C'est juste que, du coup, moi, je pense que j'ai fait le lien avec le public. C'est-à-dire que j'en ai fait des textes. Et en fait, quelque chose qui est devenu, du coup, public dans cette notion-là, en fait, de réaction, en fait, au fascisme montant et aux violences subies par les personnes sexisées, sur les personnes sexisées par les hommes cis.
Ouais.
Je pense qu'il faut être clair sur les termes. Donc voilà. Et ensuite, tu parlais aussi en tant qu'artiste. Alors ça, c'est encore autre chose. c'est carrément une autre question. En étant artiste, du coup, avec ma casquette de chargée de prod, j'ai la chance d'avoir accès à beaucoup d'informations qu'on se donne entre programmateurs, entre chargés de prod, etc. C'est-à-dire, on sait, ce lieu-là, c'est l'angoisse absolue. Il y a des harceleurs, des agresseurs, etc. C'est en fait de spreader l'info auprès de personnes que je pense être... En tout cas, de mon côté, dans cette lutte-là, donc genre, je pense que j'essaie de faire... Dès que je pars du principe que moi, en tant que chargée de prod, j'aimerais trop qu'on me dise si tel artiste, telle personne, elle n'est pas OK. Mmh. Et en fait, genre, même, elle est carrément genre violente pour éviter que les autres fassent cette erreur-là et qu'en fait, qu'on arrête de travailler avec ces personnes qui sont absolument affreuses. Donc voilà, il y a eu un peu ce truc-là. Ensuite, j'ai pas... J'ai pas un public de fou, hein. Genre, j'ai pas un état ou que sais-je. ou Kiki. Du coup, j'ai pas tendance à penser que mon impact en tant qu'artiste, il est énorme. Néanmoins, j'accepterais pas un or aujourd'hui.
Ah ouais.
Voilà, enfin tu vois.
Comme ça toi.
Genre, désolé.
On dit les termes.
Enfin, je sais pas.
Et tu peux nous dire du coup pourquoi?
Oui.
Pourquoi t'accepterais pas?
Ah, Alice, pourquoi?
Alors, je m'entends pas, hein. Donc,
Moi, si je suis pas. On t'entend okay, très vas-y. Bien.
On partage. Pourquoi? Oula, bah, j'entends plus rien non plus. Bon. Alors, pardon, le quatrième mur.
C'est bon, ça y est. Vas-y.
Ok. Alors, pourquoi? Déjà, parce que au-delà de simplement soi en tant qu'artiste, où est-ce qu'on se situe personnellement, par rapport aux événements, il faut penser qu'on a une communauté. C'est-à-dire que même si on est un petit artiste, même si on n'a pas énormément de followers, on a quand même des gens qui viennent nous voir, des gens qui nous font confiance et des gens qui, au lieu d'être dans leur lit, vont être devant nous sur scène. Ouais. Et donc, nous, si on fait pas le travail de savoir pour qui on va jouer et pour qui on donne notre énergie, en fait on met aussi une communauté en danger. Mmh. Et donc c'est au-delà de simplement se dire bah ok, je suis pas d'accord avec les positions de telle radio ou de tel lieu, etc. C'est vraiment il y a des gens qui me font confiance pour venir me voir mixer à un événement. Et si ce lieu-là, c'est pas safe, si je sais que dans le public, il y a des gens qui potentiellement sont dangereux, si je sais qu'il y a des artistes qui sont dangereux, bah moi, je peux pas me permettre de les mettre en danger. Et par rapport aux radios, bah, les radios, en fait, c'est... Alors, ok, quand on est artiste, on n'est pas payé pour jouer dans des radios, mais les radios, elles fonctionnent pas à l'eau, à l'amour, etc. C'est-à-dire que c'est quand même un business, il y a quand même de l'argent derrière, et nous, même si on vient jouer gratuitement, entre guillemets, bah, c'est jamais vraiment gratuit. Nous, on leur offre de la notoriété, on leur offre de la visibilité. Littéralement, on leur offre la visibilité de notre communauté sur un plateau. Et donc, si nous, on n'est pas d'accord avec les valeurs d'une radio, quelle que soit la raison, hein, je veux dire que ça soit parce que la personne qui tient la radio est un connard, que ça soit parce qu'on n'est pas d'accord avec les convictions politiques, bah, en fait, il faut rester droit dans ses bottes parce qu'on est des artistes, mais on n'est pas que des artistes, on n'est pas que des gens qui alignent des notes de musique pour faire un truc stylé. On est aussi des gens, on choisit pour qui on donne notre personne, on choisit pour qui on donne notre argent, en fait. Donc, voilà, pour moi, c'est... C'est la base des bases.
Bim.
Allez-y, prenez la parole.
Je pense que je parlerai moins en tant que qu'artiste, mais en tant que justement consommatrice et puis bah une personne qui aussi suit des artistes, etc. Et je sais que quand les artistes prennent position explicitement d'ailleurs en disant voilà publiquement, moi j'ai refusé de jouer au Berghain, donc ça c'est l'exemple de Béatrice M. Ouais. Bah en fait ça m'a incité à ne pas y aller parce que je me suis dit en fait si j'y vais, je continue à participer à cette culture où en fait j'y vais parce que c'est cool, etc. Alors que en fait non, il y a des artistes que j'admire qui n'y sont pas allés et du coup en fait ne pas y aller c'est aussi les soutenir et je pense que c'est important de le comprendre en ce sens là donc en fait un des outils de lutte qu'on a aussi en tant qu'artiste, mais parce que en fait on est concerné par ce milieu et on connaît bien, c'est en fait de pas aller au lieu aussi et de suivre les artistes qui font ce travail et de nous dire qu'en fait voilà il faut pas aller là, il faut pas jouer là et ça n'a aucun intérêt en fait voilà si on a des valeurs un peu et qu'on réfléchit un tant soit peu en fait on a toujours le choix en fait donc
Complètement. Et puis après, il y a des gens qui nous disent « Ouais, mais ton boycott, concrètement, il sert à rien parce que le slot que tu prends pas, quelqu'un d'autre va le prendre. » Bah ok, mais en attendant, moi, dans mon cercle à moi, ça va avoir un impact. Et puis, c'est pas parce que tout le monde fait quelque chose qu'il faut forcément le faire. On donne toujours cet exemple de « C'est pas parce que tout le monde saute d'une falaise qu'il faut toi aussi que tu sautes d'une falaise. » Bah en fait, c'est pareil. Et donc oui, peut-être que si moi, je vais pas jouer dans une radio du haut de mes 1500 abonnés sur Instagram, ça va pas changer la face du monde, ça va pas changer la face de la radio, ça va pas changer la notoriété de la radio. Mais par contre, le boycott, ça marche. Et donc là, on le voit aujourd'hui avec toutes les grandes firmes de supermarchés, etc., qui sont boycottées. Ça fonctionne, mais le boycott, ça commence quelque part. Donc voilà, c'est-à-dire, enfin, c'est comme ça que ça fonctionne, l'influence, en fait. C'est que bah, toi, tu y vas pas, t'exprimes pourquoi tu y vas pas. T'es pas obligé de t'exprimer, d'ailleurs, hein, mais rien que le fait de pas y aller, ça fait qu'il y a quelqu'un, il y a pas quelqu'un qui va se dire « Ah, bah, elle y est allée, du coup, je vais y aller ». En fait, c'est des réactions en chaîne et en fait, il n'y a pas de petits efforts pour des causes comme ça.
Carrément. Ouri, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Peut-être du coup par rapport à toi, les outils de lutte que tu utilises aussi ?
Du coup, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. J'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus sur le boycott, je suis d'accord. À ma petite échelle, j'essaye de me questionner en fait jusqu'à quel point on est prêt à remettre des choses en question en tant qu'artiste. Et finalement, en quoi les valeurs qu'on affiche à l'extérieur, c'est plutôt des, ça peut plutôt être des outils de distinction sociale finalement que de réelles luttes pour des réalités finalement matérielles. Donc c'est des choses que j'aimerais adresser plus tard dans la discussion.
Et justement, on parle du boycott et tout, mais est-ce que vous avez déjà... Enfin, c'est un risque à prendre aussi en tant qu'artiste de boycotter et des fois, ça peut aussi se retourner contre nous ou contre notre collectif, etc. Est-ce que vous avez déjà, vous, été confronté à des... Par exemple, des refus de jouer dans certains clubs, des réactions négatives, etc. dues à votre prise de position ou à la prise de position de votre collectif ou peut-être des gens que vous connaissez, pareil, qui ont pris position et pour qui ça... Malheureusement, ça leur a fermé quelques portes.
Du coup, j'ai parlé du casseur Malsen. oui. C'est-à-dire que ça arrivait plein de fois, mais alors c'est...
Du coup, peut-être en fait... Sœur Malsen, c'est le collectif donc, que vous ouais. avez toutes les deux.
Enfin, ouais, enfin avec... appartient toutes les deux.
Oui. Vous êtes résidentes toutes les deux.
C'est arrivé sur plusieurs points. Alors, je pense que les gens qui te bookent pas pour ce que tu représentes, parce que tu as un point de vue assez radical sur le féminisme, sur la lutte intersectionnelle, etc., ça, tu le sais pas, parce que c'est juste c'est des gens qui ne viennent pas vers toi. Par contre, ça arrive que des personnes organisent quelque chose dans un lieu, font appel à toi, et ensuite disent au lieu « Ah, bah, on a ça comme idée », et là, les personnes font « Mm-mm ». Et en fait, nous, ça arrivait la plupart du temps, c'est très très bête, hein, c'est dans des lieux très institutionnels, à chaque fois qu'on sortait du format club. Mmh. Du coup, c'est des lieux qui vont pas forcément accueillir normalement des DJ sets, etc. C'est juste le nom qui posait problème.
Sœur Malsen. Ah ouais.
Et c'est bête, hein, enfin vraiment, parce que je pense qu'on aurait eu le même discours, ça aurait pas trop posé problème, alors qu'on est là en train de gueuler Free Gaza avec, avec des drapeaux et tout, genre, avec plein de drapeaux, avec des slogans militants. Mais du coup, oui, si, ça arrive. Après, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez insidieux dont on ne voit pas vraiment les traces. En fait, les lieux, on va dire, radicaux masculins ne se disent pas comme tels. Et c'est là où, du coup, juste, on n'est pas booké dans ces endroits-là. Ouais. En fait, on est invisibilisé. Ouais. Mais du coup, c'est juste qu'on n'existe pas là-bas. C'est pas que on les démarche et qu'ils nous disent un, parce qu'on sait, en fait, que ces gens vont pas du tout faire attention à une forme de parité ou de mixité, sur le plateau. Donc, en fait, c'est juste un endroit que, comme nous, en tant que consommateuristes, on n'y va pas et on n'est pas intéressé. Juste, c'est un milieu électronique qu'on ne connaît pas et ils nous ne connaissent pas parce qu'ils viennent pas à nos soirées. J'ai l'impression que c'est plutôt dans ce sens-là.
C'est un peu dans ce débat aussi de « Ouais, mais si tu vas pas jouer dans une radio, si tu vas pas jouer dans ce club-là, ou etc., si tu refuses des opportunités, tu vas perdre en visibilité, tu vas perdre... » Voilà, en fait, c'est toujours ce « t'aurais pu gagner des abonnés, t'aurais pu avoir plus de communauté, etc. » Mais est-ce que ça t'intéresse vraiment d'avoir cette communauté ? On a beaucoup ça pour tout ce qui est le... Quand on boycotte des radios ou des lieux mythiques, par exemple, on me dit ouais, tu veux pas jouer là-bas, t'aimerais pas jouer là-bas. Je dis moi je sais qu'il y a des endroits où j'ai pas envie de jouer parce que la communauté là-bas ne m'intéresse pas de base. C'est-à-dire que il y a un club précisément dans lequel je ne veux pas jouer, mais ça ne m'intéresse absolument pas d'y jouer, même si effectivement ça pourrait être un truc dans ma carrière qui permettrait de m'inscrire dans une lignée d'artistes, etc. Non, ça m'intéresse pas. Alors ok, j'aurais pas ces 500 abonnés, j'aurais pas cette visibilité. Mais au final, je préfère choisir ma visibilité. Quitte à. Voilà, c'est-à-dire que à choisir, si je choisis 10 personnes qui sont proches de ma communauté ou 500 personnes de gens que j'ai pas envie de les voir à mes événements, le choix, il est vite fait. Hein. Mais c'est pas un choix que tout le monde serait capable de faire, mais je pense que. En fait, ça dépend parce qu'il y a des personnes qui ont une très forte personnalité, qui arrivent à savoir ce qu'elles veulent ou pas, mais il y a aussi des artistes qui sont mal entourés ou des artistes qui ont une équipe qui les pousse à faire des choses. Dire, ok, mais c'est une étape à passer, ok, tu vas devoir passer par cette radio, mais ça vaut le coup. Le nombre de fois où j'ai entendu des gens qui me disent, ouais, j'ai joué dans cette salle, ça craint, mais bon, en vrai, ça valait le coup parce que ça m'a apporté ça et ça et ça.
La visibilité et tout.
Moi, je suis désolée, mais pour moi, mes convictions politiques et personnelles, ça prévaut sur un peu de visibilité, mais j'entends aussi que selon l'entourage qu'on a, notamment si on est dans une agence qui nous pousse ou si on a un entourage qui nous dit mais t'inquiète, ça vaut le coup, c'est pour ça que j'entends aussi cet argument là, mais tant qu'on a la possibilité de faire ce qu'on veut, autant qu'on fasse ce qu'on veut. Au départ, on est des artistes, on fait de la musique,
je sais pas, on a le droit de faire ce qu'on veut quand même.
Ah bah oui.
Ou même d'un manager qui omet de te parler de ça.
Ah bah ça, c'est autre chose. Ça, là, on est sur de la manipulation. Mais,
mais en vrai, parmi... Enfin, ouais. Faut quand même, aujourd'hui, pour être dans une grande agence de booking ou manager, il faut être un énorme requin. Faut dire le terme.
Ouais.
Et donc, du coup, j'en avais parlé à une personne justement qui a joué au OR, quelques semaines après ce qui s'est passé par rapport... à tout ça, mais du coup, elle a appris pendant la discussion, elle allait y jouer une semaine après, qu'il s'était passé ça. Mmh. Elle n'avait aucune idée. J'étais, comment ça, ton manager t'en a pas parlé ? Bah non. et évidemment qu'il est au courant. Évidemment.
Bien sûr,
enfin,
ouais,
il n'y a absolument aucun doute. Enfin, ça...
Peut-être on peut remettre un peu le contexte pour les auditeurs et auditrices qui ne savent pas ce qui s'est passé au OR.
Ouais, alors en fait, c'est une radio allemande qui est basée à Berlin, je crois.
Et
en fait, le souci, c'est qu'ils ont un historique de boycott d'artistes qui défendaient la Palestine et à peu près dans ce militantisme-là. Et il y a eu un gros boycott qui a été lancé il y a quelques mois parce que, ras-le-bol, en fait. Enfin, il y a littéralement une crise qui est en train de se passer dans ce pays. Et on censure encore des artistes parce qu'ils ont un t-shirt militant. Enfin, là, on n'était même pas sur des slogans agressifs, on était sur un t-shirt. Donc voilà. Et donc, de là est né un boycott qui. Et après, OR a sorti un Various Artists, donc une compilation, en disant... regardez, on a compris de nos erreurs, on sort un Various Artists pour montrer qu'on est pour la Palestine, etc. Alors, sachons quand même que les fondateurs de OR sont des anciens membres de l'armée israélienne et qui, sur leur compte perso, revendiquent encore le bien fondé de la pensée israélienne. Donc en fait, ça va au-delà de juste censurer des t-shirts, quoi. Et en plus, d'ailleurs, sur le Various Artists, l'un des sons qui était présent sur la compilation, c'est l'un des sons du mec de OR, donc l'indécence. Ouais. Et donc l'objectif de cette compilation, c'était de lever des fonds pour une association pro-Palestine. Et même l'asso a dit, on veut pas de votre argent.
Ils n'ont pas été prévenus avant, ça qui est dingue.
Bah c'est fou. Et en fait, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que c'était clairement pour... laver leur honneur, sauf que le grand public a retenu cette compilation, mais pas tout ce qu'il y a derrière. Donc effectivement, il y a de la manipulation aussi du côté des agents et des managers qui disent « Ouais, mais regardez, ils ont fait un Various Artists pour lever des fonds. » Bah ouais, mais regardez ce qui s'est passé derrière,
oui,
en fait.
C'est que...
Non, et puis après, inversement, donc il y a des trucs comme ça explicites, tout le monde sait, et puis il y en a plein qui décident de fermer les yeux. Et après, je sais qu'aussi, il y a plein d'artistes ou de manageuses... qui se font boycott quand elles sont au courant de tel gérant de salle qui est un agresseur, de tel artiste qui est un agresseur. Et en fait, on continue à invisibiliser toutes les personnes qui parlent de ça. Et en fait, il y a encore beaucoup, beaucoup de saleté à ramasser sous le tapis. Donc en plus, même quand on fait ces boycotts, etc., en fait, il faut se souvenir que non, il y a encore plein de gens qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent et beaucoup de notoriété et
ça,
beaucoup
sûr.
D'influence qui continue à être vraiment très présent et à invisibiliser et à faire taire en fait toutes les personnes qui cherchent à dévoiler tout ce qui se passe, quoi.
À prendre la parole. Ouais. Sur ces belles paroles, justement, on va faire une première pause musicale et on va s'écouter Mexican Weasel de Lucas Van Locke.
Hey mama, sit down. Oh.
Et c'était Mexican Weasel de Lucas Van Locke. Je voudrais qu'on parle un peu de la mixité choisie. Je sais que pour Gogwin, c'est un de vos outils de lutte. Vous précisez bien que genre, aucun espace ne peut se prétendre safe et que les agresseurs ne sont pas que des hommes cis. Mais en quoi, pour vous, la mixité choisie, elle permet de mieux répondre aux besoins et aux enjeux spécifiques des luttes que vous menez? Et bah, comment vous la mettez en place? Comment vous répondez aussi aux critiques selon lesquelles bah, la mixité choisie pourrait être perçue comme une forme d'exclusion?
Du coup, en gros, la mixité choisie, c'est un biais de lutte, de réparation. C'est pas une fin en soi, c'est bien ce qu'on dit en fait dans nos textes qui l'expliquent. L'idée, c'est que on décide pas de faire un pays sans vous, les hommes cis. C'est juste que à un moment, une soirée, de temps en temps, on a envie de se retrouver entre personnes concernées, donc c'est-à-dire des personnes queer, sexisées, flinta, donc femmes, lesbiennes, intersexes, non-binaires, trans et agenres. Et en fait, dans la fête, trouver un endroit de sécurité, de réparation, que ça soit par le biais de la musique, par le biais de la discussion, par le biais d'animation, par le biais de juste être là et en fait d'être entouré par les siens et siennes. Mais donc du coup, en fait, je trouve, enfin, que ces espaces de sécurité entre guillemets, même si évidemment tu l'as dit, il y a des limites à ça. En fait, tous les agresseurs ne sont pas des hommes cis, et il faut bien s'en rendre compte. C'est parfois ça surprend, mais oui. Et en fait, c'est juste une manière de trouver un peu de paix quand on peut en avoir, à on va dire une paix entre guillemets pas assurée, mais en tout cas sur certains endroits. Et qui est, en tout cas pour nous, était un besoin vital parce qu'on en trouvait très très peu à un moment donné. Genre la Wet For Me est un exemple, on va dire, des plus connus, mais c'est pas vraiment un espace en non-mixité. Et en fait, on voulait amener d'autres propositions et je pense qu'il y avait une vraie volonté dans le milieu lesbien, trans, non-binaire, etc. Et donc voilà, enfin, nous en fait, on en avait besoin en tant que personne concernée.
Et comment vous la mettez en place du coup?
Alors, du coup, on a beaucoup réfléchi à ces questions-là et on avait vraiment très très envie aussi qu'il n'y ait aucune forme de police de genre parce qu'on connaît en fait les problématiques aussi des mecs trans et des femmes trans qui se sentent régulièrement pas acceptées ou en tout cas pas intégrées dans ces projets-là. Donc l'idée en fait, c'est juste qu'à l'entrée, on fait plutôt une responsabilisation du public, c'est-à-dire qu'on donne les termes et les murs de cet endroit-là, que voilà, que toutes ces personnes flinta sont acceptées et que en fait à partir de là, si les personnes considèrent qu'elles en font partie, et bah c'est tout, on va pas revenir dessus, même si tu parles des Stan Smith, en fait c'est carrément ok. Et donc du coup c'est plutôt la responsabilisation commune et ensuite s'il y a comportement problématique, tu seras sorti au même titre que tout le monde, même si tu es une femme cis, même si tu es, enfin voilà, c'est vraiment ce questionnement là plutôt qu'on a décidé de prendre parce qu'on s'est rendu compte aussi que parmi les communautés notamment en fait on parle très très peu de l'intégration des mecs trans, par exemple, dans les milieux lesbiens. Mais il ne faut pas oublier que pour la plupart d'entre eux, en fait, ils ont d'abord fait un coming out lesbien avant de faire un coming out mec trans. Et que du coup, en fait, le milieu lesbien, ce n'est pas que de la sexualité, c'est une culture. Et que du coup, ces personnes se sentent culturellement rapprochées en fait, de ce milieu-là et que c'est super important de continuer à les intégrer.
Et comment du coup vous répondez, enfin j'imagine que vous en avez des critiques sur, sur ce choix de réaliser des soirées en mixité choisie?
Très peu.
Très peu.
Très très peu.
Ok, bah tant mieux.
Très peu. Il y a un mec qui a répondu, merci Jérémy à toi, qui avait besoin de donner son avis. Pas très inclusif, mais bon, si ça vous fait du bien, j'accepte, cœur marron. Alors le cœur marron, on en reparlera à un autre moment. Mais bon, bah, voilà, genre pas très inclusif, bah non, c'est le principe de la non-mixité, Jérémy. Mais du coup, non, il y a très peu de critiques, parce que dans tous les cas, en fait, je pense que les hommes cis viennent pas sur ce genre de page, ils comprennent pas. Ça s'appelle Gogwin en mode bon. En fait, quand ça les concerne pas, ils s'en foutent quoi. Enfin, sauf si un jour Sigma en parle ou Bolin Techno, ils vont être là, waouh, moi je veux venir aussi. Bah non. Mais à partir de là, enfin, ils viennent. Non, on n'a pas trop de problèmes en vrai.
Bah, ouais. Tant mieux. Hein.
Bah, pour les espaces en mixité choisie, quand même, on avait eu des problèmes au Rex. Oui. Avec Sœur Malsaine, okay. Où en gros, on avait une résidence au Rex, un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça, jusqu'à l'année dernière. Et en gros, on avait mis en place, donc ça s'appelait Petites Lèvres, et le but, c'était aussi de faire des line-up 100% flinta. Mm-hmm. Et on avait un espace dans le Rex, mais qui était quoi 15 à 20 mètres carrés à tout péter. Hein.
Même pas, je crois.
Ouais, même pas, ouais. On est sur du peut-être 10 mètres carrés qui était derrière un rideau à côté de la scène. Ouais, vraiment. Et c'était écrit Club Misandre. Et puis l'idée, c'était il n'y a que des personnes Flinta qui peuvent rentrer. Et du coup, il y avait une personne à l'entrée quand même qui faisait. Qui expliquait ce principe-là aux personnes qui voulaient rentrer. Et vraiment, à toutes les soirées qu'on organisait, il y avait toujours un pélo qui trouvait ça injuste, qui comprenait pas, qui se sentait rejeté et discriminé.
Ça se trouve, je suis trans, tu le sais pas.
Ouais, voilà. Alors, on a eu beaucoup
quelqu'un
de ça.
Quand quelqu'un se dit ça, c'est en général, bon, il est pas concerné.
Ouais, voilà. Et qu'est-ce que t'en sais, en fait?
Ouais.
Bah, écoute, frérot, avec ta petite chemise, là, je suis désolée, mais...
Et il y a un truc aussi, c'était que c'est un endroit de pouvoir juste à côté du DJ Booth. En fait, c'est le Rex, comment il était fait, il est toujours... Il y a un espace, en gros, où il y a quelques marches pour aller en bas. Et puis après, il y a quelques marches pour aller en haut. Et le DJ Booth, avant, il était en haut. Maintenant, il est au centre, il me semble. Mais à ce moment-là, il était en haut. Et du coup, nous, on mettait juste sur le côté droit. À côté du DJ Booth, mais les hommes cis, ils adorent avoir accès à ça parce que c'est juste à côté de l'artiste et du technicien lumière et son. Et donc du coup, il y en avait beaucoup qui mentaient sur leur identité de genre parce qu'ils voulaient parler au technicien son et lumière parce que lui aussi, il a envie de faire technicien son et lumière. Et au bout d'un moment, il accepte, fait bon, j'avoue, je suis pas une meuf trans, j'ai menti. Non, c'est pas vrai. Enfin, genre, je l'avais pas vu venir celle-ci. Et enfin voilà, en fait, c'était plutôt des cet endroit stratégique était utilisé pour mentir, en fait, et du coup, potentiellement mettre en insécurité les personnes qui avaient pris place dans cet endroit-là pour être en sécurité. Enfin, c'est...
Et puis, tu vois, si tu me dis qu'il disait « Ouais, je me sens pas bien, je me sens rejetée, enfin, c'est pas du tout inclusif », j'ai envie de dire « Bienvenue dans ma vie, le monde entier est comme ça, et toi, si tu supportes pas ces 15 mètres carrés ou on te traite mal selon toi et où tu te sens que t'es discriminée et que rien que par ton identité de genre tu n'es pas le bienvenu, écoute, voilà, nous sache que c'est tout le temps comme ça partout, du matin au soir, même la nuit, donc
mais en fait on oublie souvent de parler de ça, de la nécessité de l'espace en mixité choisie, mais juste en fait on a envie d'avoir un espace où on pose notre cerveau et on sait qu'on est qu'avec des personnes flinta et que on n'est pas en hyper vigilance. Et que surtout, en fait, c'est un espace où on n'est pas discriminé. Et puis, j'avais lu pas mal de trucs sur les écoféministes, parce que c'est elles, en tout cas, il me semble qu'elles ont mis en place beaucoup des ateliers de mixité choisie, juste pour apprendre aux femmes à coexister ensemble en tant que femmes. Bon, aujourd'hui, on dirait Flinta, mais c'est hyper important, parce qu'en fait, on est dans un monde dominé par les hommes, construit par les hommes, où même les relations sociales sont tournées autour des hommes. Enfin, vraiment, je sais pas si vous avez... Enfin, dans un groupe de potes où il y a autant de femmes que d'hommes, enfin, en tout cas, de naissance, c'est toujours les mecs qui prennent toute la place. Et c'est toujours... Non, mais c'est vrai. Et c'est toujours eux qui créent les problèmes. Et en fait... C'est pour ça qu'on est obligé parfois de vouloir se retrouver entre Flinta, juste pour pas avoir ces soucis et ces comportements super égoïstes que peuvent avoir les hommes cis, en fait.
Et puis pour l'observer, il suffit de prendre le métro.
Oui, voilà. C'est ce que j'aime.
Voilà, un écosystème de tout ce qu'on vient de dire. Et tu rassembles un échantillon de la population dans un truc fermé en métal, littéralement un métro. Et entre deux stations, tu as le temps de faire une étude sociologique sur la vie. Et rien que là, en venant tout à l'heure, je me suis fait la réflexion. Le nombre de mecs qui avaient les jambes écartées, le nombre de gens qui prennent toute la place et vas-y que je discute et que je crie. Alors, on dit pas du tout qu'aucune personne flinta crie ou prend de la place. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. On n'est pas du tout en train de dire que nous, on est toutes respectueuses, etc. Loin de là. Et heureusement, mais c'est vrai que il y a une espèce d'impunité sur l'espace public des hommes cis, et c'est nous on le subit et en fait on l'a accepté, donc on le voit même plus. C'est-à-dire que nous maintenant que je me suis engagée, que après j'ai toujours été engagée, mais maintenant que je le fais activement, en tout cas dans le milieu de la nuit, je me rends compte de plein de choses que je ne voyais pas quand j'étais plus jeune, et parce que je l'avais accepté, et maintenant ça m'indigne, mais en fait ça a toujours été là. Alors oui, maintenant on crie plus, donc voilà, mais les problèmes ils étaient là avant, c'est juste que maintenant on en parle. Exactement. Et parce qu'il y a des espaces justement comme ça, ou parce qu'il y a des collectifs comme Sœurs Malsaines ou d'autres initiatives, Gogouine ou d'autres associations, même des partis politiques qui essayent de changer un peu la donne, ça nous donne la liberté de parler. Mais pourquoi ? C'est parce qu'on a des échantillons de liberté dans des espaces en non-mixité, mais sans même parler des milieux festifs. Quand on faisait nos soirées entre copines, ou alors les soirées entre personnes flinta, ou les soirées pyjama, les trucs comme ça, même au collège en fait, c'est-à-dire que quand on faisait des soirées pyjama, c'était un espace de liberté où on pouvait faire ce qu'on voulait, et puis voilà. Et Et ça, en fait, c'est, on n'a rien inventé. C'est juste qu'on maintenant, ouais. on essaye de rendre ça disponible au plus de gens possible. Mais en réalité, ça a toujours existé, des espaces en non-mixité.
De fou. Mmh. Parce que la plupart ne sont pas annoncés comme tels. Mais bah, l'espace public est un espace en non-mixité.
Ouais.
Regardez qui s'assoit sur les bancs, comme tu parlais. Mmh. En fait, la plupart des endroits, même on va aller dans des lieux qui sont, par exemple, habités plus par des personnes riches blanches. Un opéra. Ouais. Qui est dans un opéra? Vous voyez beaucoup de personnes racisées? Ben non. Et c'est aussi une forme de non-mixité, en fait. La non-mixité, elle est souvent tacite, mais elle est là parce que la plupart des gens qui n'ont pas accès ou peu à ces endroits ne sont pas à leur place et du coup désertent ces endroits-là. C'est ça qui se passe en fait.
Déjà, l'espace public il est archivalidiste hein, parce qu'en fait il y a que des personnes valides qui peuvent y accéder. Enfin, voilà,
puis je dirais même que les espaces en non-mixité, du coup, sur les événements, ça permet aussi d'offrir ces espaces comme ça à des personnes qui n'y avaient pas droit. Pensons à toutes les femmes trans qui n'ont jamais eu accès à des espaces en non-mixité quand elles étaient jeunes parce qu'elles étaient encore coincées entre guillemets dans leur corps d'homme. Maintenant, elles ont cette liberté-là de pouvoir coexister avec d'autres personnes Flinta. Mmh. Et nous, on peut leur offrir cette possibilité-là dans des espaces. Et franchement, c'est précieux. Donc moi, les larmes des hommes cis qui pleurent, je m'en fous. Parce qu'à côté, je vois qu'on donne enfin accès à ces espaces-là de liberté. Et juste, dans cet espace-là, tu as le droit d'exister, d'être qui tu veux. C'est fou parce qu'il y a des gens qui ont subi, en fait, justement, cette masculinité forcée et qui ne se sentaient pas bien dans des corps d'hommes et qui maintenant s'accepte ou pas, mais qui ose s'accepter et vivre dans des espaces de non-mixité en tant que personne trans. Et ça, franchement, c'est hyper précieux. Mmh. Donc, il faut enlever ça pour rien au monde. Et ça vaut 50 000 Jean-Michel qui crie. Ou Jérémy.
On va se faire une deuxième pause musicale. On va écouter Tribal de Apsis. Et c'était Tribal de Apsis. Houri, quand on a discuté ensemble, tu as mentionné... je sais pas si on m'entendait avant. Houri, du coup, je recommence. Si, quand on a discuté ensemble avant l'émission, tu as mentionné que l'esthétisme militant et le vitrinage des valeurs du mouvement techno t'avait un peu frustré. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Comment, selon toi, on peut éviter ces écueils et garder une authenticité dans son engagement artistique ?
Oui, alors déjà, là, en fait, on se place dans un cadre qui est, pour moi, purement citadin et purement à Paris, en fait, en dehors de plein d'autres cadres de fait qui peuvent exister. Donc déjà, je pense c'est important de rappeler que je parle que de cet environnement-là, celui que je connais. Dans le cadre du militantisme qui est affiché chez les artistes, et chez les collectifs, etc., oui, ça peut être pris comme un vitrinage, et ça peut être de fait un vitrinage parce qu'on vit dans un monde néolibéral, ultralibéral et qui capitalise sur les identités des personnes, que ce soit leur identité de genre, leur orientation sexuelle, etc. Donc, effectivement, je pense que c'est important de rappeler que les mots ont des sens à la base. Par exemple, on surutilise aujourd'hui le mot safe, le mot queer, le mot militantisme, le mot intersectionnalité. Et en fait, finalement, ce sont des symboles d'ouverture et de progressisme avant tout et avant d'être des outils et des moyens d'agir concrètement pour les réalités matérielles que vivent les personnes oppressées. Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est l'incapacité ou l'impunité des personnes qui œuvrent à la fois, donc, dans une part, à faire évoluer le milieu festif, à faire évoluer les espaces musicaux et où on se retrouve, qui sont des espaces politiques de base, etc., mais qui sont quand même dans l'incapacité de se remettre en question sur d'autres oppressions. Et c'est là où, par exemple, le mot d'intersectionnalité, pour moi, il est ultra, ultra mal utilisé aujourd'hui dans les milieux, notamment blancs, bourgeois, etc., parce que on entend par là plus un positionnement social, on entend une distinction, on entend se dire nous, on aime bien s'écouter se dire, vas-y, nous, on a compris ce que c'était l'intersectionnalité, on a compris ce que c'était d'être ouvert au monde qui nous entoure, etc. Mais ça, au final, pour les collectifs et pour les clubs et pour les lieux festifs, etc., ça revient à mettre de l'argent dans la caisse, en fait. Donc là est le problème, finalement, je pense, du milieu festif, c'est que c'est un problème très profond de base. C'est qu'il n'est pas considéré, le milieu festif, comme un milieu social, de société, comme un autre. Il est considéré comme un milieu à part. Et du coup, forcément, c'est un milieu où on va venir se divertir, où on va venir occuper un loisir, etc., pour un peu sortir du milieu du travail, etc. Mais pour beaucoup de gens, comme pour les artistes du milieu musical, c'est un milieu de travail, en fait. Il faut savoir que la plupart des oppressions, elles se répercutent beaucoup dans les backstage, beaucoup au sein des équipes, etc. Et ça, c'est très peu adressé, finalement. C'est-à-dire que dans les mêmes événements qui vont pour autant avoir une devanture queer, gay-friendly, tout ce que tu veux, etc., au sein de l'équipe même, qui sait qui va pas se faire payer à la fin, c'est les meufs trans, en fait. C'est celles qui font l'entrée. Tu vois, donc c'est sympa, en fait, d'avoir des logiques d'ouverture des mœurs et de vouloir lutter pour ça aussi, mais je pense qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même une tolérance de principe derrière ça, et que c'est surtout avant tout afficher sa valeur, afficher une jolie charte en disant que t'as bien compris ce que c'était les 5D du consentement, etc. C'est d'abord et avant tout une façon de se positionner socialement, en fait, et que finalement, quand on fait ça, on est bien content de se mettre un peu en contradiction avec une masse qui ne serait pas éduquée, une masse qui ne serait pas progressiste, justement. Et voilà, donc donner des signes de militantisme, au final, pour moi, c'est vraiment aider à se positionner socialement, et c'est en ça que c'est une vitrine. On n'est pas forcément plus acceptant dans les faits, en fait. L'appropriation des codes, ça ne veut pas dire que tu partages les conditions sociales, hein, tout simplement. Aujourd'hui, par exemple, pour donner un autre exemple en dehors des milieux festifs, on voit beaucoup d'hybridation des masculinités notamment bourgeoise avec les masculinités de quartier. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, notamment dans une ville comme Paris. Donc, je voulais juste citer le travail d'une sociologue qui s'appelle Sylvie Tissot, qui a enquêté notamment chez les populations bourgeoises à Paris, du Marais, en les corrélant avec les populations bourgeoises de Park Slope à New York City. Finalement sur la question de la gay-friendliness, qui est du coup la question finalement de la valorisation, donc on parlait de valeur comme distinction sociale, et c'est intéressant là de parler de valorisation de l'homosexualité et à quel moment, comment on peut faire pour l'accepter dans les milieux bourgeois. Et finalement, en fait, ce dont elle se rend compte avec cette étude-là, c'est que les personnes bourgeoises ont plus de pression, entre guillemets, à afficher leur bienséance vis-à-vis de, de voilà, des identités LGBT, de l'homosexualité, etc. Et que dans les faits, dans la réalité des faits, si on leur demande, là, votre fils ou votre fille a fait son coming out, etc., comment vous le prenez, ou est-ce que vous allez être vraiment acceptant, alors là, il n'y a plus personne. Et là en vous parlant de tout ça, en fait, je cite beaucoup de choses qui sont dites dans une vidéo de Gregor Simpson, qui a fait une vidéo qui s'appelle « Est-ce que c'est devenu cool d'être LGBT ?» que je vous conseille vraiment d'aller voir sur YouTube. Voilà, Gregor Simpson, merci pour les travaux. Moi, ça m'a permis beaucoup m'écouter. Mais voilà, pour revenir sur notamment la question des polarités qui était évoquée dans l'épisode précédent sur cette émission. Oui, effectivement, on remarque beaucoup de polarités dans le milieu festif aussi, mais c'est une image de notre société ultra-libérale actuelle, en fait. Donc, pour lutter contre ça, il faut lutter aussi dans la société dure, en fait. On ne peut pas adresser ces trucs-là dans le milieu festif si on n'ouvre pas des espaces de parole, si on n'ouvre pas des trucs qui sont indépendants, finalement, du milieu festif, parce qu'effectivement, ça ne va pas être le meilleur endroit, ni le meilleur moment pour adresser ces questions-là. Mais pour aller droit au but, finalement, ce n'est pas parce qu'on est gay-friendly, LGBT-friendly en devanture qu'on n'est pas raciste et classiste par derrière. Ouais. Et c'est souvent ça qui est... Et qui pose souci, c'est qu'on va souvent penser, parce que de notre positionnement social, c'est normal de culturellement se positionner sur des trucs plutôt, etc., parce qu'on est blanc, parce qu'on a de l'argent, etc. On va mettre de côté toutes les populations, tous les milieux populaires, finalement, et aller vite à penser que les personnes racisées, en fait, finalement, elles n'ont pas cette éducation de base. Alors que c'est faux. Et les études le montrent aussi, en fait. Voilà.
Est-ce que quelqu'un veut rebondir peut-être? On a tous acquiescé pendant tout le long. Il nous reste 7 minutes. Alors, je vais peut-être profiter pour poser une dernière question. En tant qu'artiste, du coup, en tant qu'artiste engagé, c'est souvent plus facile de toucher sa propre communauté, forcément, celle qui partage déjà nos idées, nos valeurs, nos combats, etc. Pourtant, on sait que si on veut un changement, il faut aller au-delà, il faut trouver d'autres moyens d'atteindre d'autres publics, des publics plus larges, parfois des publics moins sensibilisés ou qui sont pas sensibilisés aux luttes que nous on essaye de défendre. Comment on peut s'assurer que l'art devienne vraiment un outil de dialogue et de transformation plutôt que juste un simple écho au sein de notre propre communauté à nous?
Moi je peux commencer par répondre rapidement. En fait, moi je suis prof aussi, donc à côté. Et du coup, en fait, en plus j'ai la chance d'être prof de philo, donc en fait je peux embrasser vraiment plein de sujets. Ouais. Et en fait, je leur montre toujours comment certaines pratiques artistiques défendent des valeurs. Parce que j'ai des élèves de banlieue, parfois ça peut être difficile de parler de certaines questions, donc notamment des questions de personnes LGBT. Et je sais qu'ils sont très réticents. Et du coup, en fait, j'utilise l'art comme un médium pour leur en parler. Du coup, je leur ai parlé par exemple de La recherche du temps perdu de Proust. Ouais. Hyper classique, qui est en fait un éventail de personnes LGBT quoi, dans ce roman. Et du coup, je leur en parle comme ça, et ça passe mieux. Et du coup, en fait, l'art, justement, a cette force de parler de manière indirecte de choses dont directement on ne pourrait pas parler, et c'est ça qui fait cette force. Et puis, en fait, même quand on ne fait pas de l'art directement, on peut parler d'art qui parle de ces choses-là, et qui sont en plus des choses hyper classiques. Donc, en fait, plus audible, justement, parce que c'est Proust, quoi, et que c'est un monument de la littérature classique, mais c'est aussi une personne LGBT qui a beaucoup parlé des personnes LGBT, et c'est pas le seul, mais justement, on peut utiliser ces biais-là, je pense.
Puis, il y a des choses assez simples qu'on peut faire. Là, je regarde en tant que... Enfin, j'ai ma casquette de DJ, là. On disait que, justement, effectivement, le monde de la musique, c'était aussi... Enfin, ça pouvait être un travail. Ou en tout cas, même si c'est une activité en plus d'un travail, je pense particulièrement aux productrices, les personnes qui composent les morceaux qu'on joue. La moindre des choses qu'on peut faire, c'est de créditer les artistes, d'autant plus si c'est des personnes flinta, parce que c'est rarissime. Et alors, ce problème-là, c'est qu'il n'y a pas de meufs ou de personnes flinta qui composent. C'est juste que c'est extrêmement compliqué, quand on est une personne flinta, d'avoir la légitimité de montrer ce qu'on fait. Parce que souvent, alors ça dépend des styles, mais moi personnellement, je suis plutôt dans les styles hard, hardcore, etc. Et en fait, c'est un milieu qui est tellement masculin que... Pour moi, c'est hyper. Je produis chez moi. C'est hyper compliqué pour moi de montrer des démos à des gens qui connaissent pour avoir des conseils, parce que c'est majoritairement des hommes. Et en fait, c'est hyper compliqué de se dire, moi, j'ai la légitimité de produire quelque chose. J'ai la légitimité de de participer à ce milieu-là, parce que en fait, de la discrimination, j'en subis au quotidien, étant donné que je suis une personne flinta. Mais dans ce milieu-là, bah, j'ai d'autant plus de choses à prouver. Et donc, en tant que DJ, la moindre des choses qu'on peut faire, c'est déjà réfléchir à notre tracklist, essayer de jouer des artistes qui ne sont pas que des hommes. Alors ça, c'est compliqué, mais voilà, on peut faire ce travail-là. Créditer les artistes, surtout si elles sont flinta, pour leur donner de la visibilité, parce que malheureusement, on reçoit très peu d'argent quand on produit de nos musiques. Même si on les vend à des majors ou à des gros labels, on reçoit très peu d'argent. La moindre des choses qu'on peut faire, c'est partager le travail de ces personnes-là pour essayer de leur donner plus de visibilité, qu'il y ait plus de personnes qui jouent leurs morceaux et qu'elles aient plus de notoriété, etc. Donc, sans parler du fait de monter des collectifs, de faire des manifestations, ça c'est très bien si on peut le faire, mais tout le monde n'a pas l'énergie de le faire pour plein de raisons. Je veux dire, voilà, parfois si on travaille, enfin, moi par exemple, j'ai beau être très militante, je ne vais jamais en manifestation parce que j'ai la phobie des gens, et chelou quand t'es DJ, mais en fait j'ai la phobie des gens amassés dans un même endroit, du coup je n'y vais pas, mais c'est pas pour autant que je suis pas d'accord. Mais voilà, donc j'aurai pas l'énergie d'aller en manif avec des grands panneaux, etc. Mais la moindre des choses que je peux faire, c'est essayer de parler. Et puis si j'ai peur de parler, bah, je peux jouer des artistes qui ne sont pas que des hommes. Je peux essayer de prendre la parole, voilà, ou même sur Instagram, c'est hyper facile de reposter des stories. Il y a plein de choses qui peuvent être faites à n'importe quelle échelle. Et c'est comme ce qu'on disait au tout début avec le boycott, en fait, c'est que tant que vous faites quelque chose, même si c'est peu, bah, c'est déjà ça.
Il y a un biais aussi, c'est la passation de savoir, qui est une forme de militantisme pur et dur pour dégommer aussi le fait que les populations les plus privilégiées gardent le savoir et continuent de le faire depuis des générations, des générations, des générations. Et du coup, en fait, c'est de donner toutes les mêmes chances à tout le monde. Et du coup, quand on a le savoir, et ben on le partage au max. Même si nous, ça nous fait perdre un privilège à un moment donné, et ben c'est pas grave. On le donne, on le partage, et au plus grand nombre possible et imaginable. Et il y a un biais un peu, c'est pas du militantisme pur et dur, mais moi j'aime bien lutter contre ça aussi, c'est d'une forme de puritanisme musical. C'est-à-dire que, en fait, ça existe dans tous les styles musicaux possibles et imaginables, avec tous les instruments possibles et imaginables. Il y a forcément un musicien qui est venu te voir en te disant, de toute façon, moi je fais que avec cet instrument. Et en fait, niquez-le. Enfin, avec consentement si possible, mais genre, c'est-à-dire que il faut sortir de ça. En fait, il y a une forme de non mais la musique populaire c'est de la merde, pourquoi c'est de la merde, se questionner en fait, est-ce que c'est pas du classisme pur et dur, parce que quand ça plaît aux masses c'est moins bien. Bah non, en fait, le produit en lui-même il est aussi qualitatif, et c'est pas parce que les gens ça leur plaise que c'est moins bien, au contraire. Enfin, si ça touche, la musique c'est ça, non, c'est de toucher aussi le plus possible tout le monde. Et quand tu vois que du coup, genre, c'est con, mais un remix de art techno ou de techno de I don't know, Beyoncé ou Rihanna, genre à quel point les gens mais s'amusent de fou dessus, est-ce que genre il y a pas plus à dire, juste à regarder les gens danser de dingue et se dire mais en fait voilà, tu vois, en fait genre faire, enfin, toucher autant de gens c'est quand même super. Donc j'en ai rien à foutre de ta track breakée mi garage mi hard groove, j'en sais rien, genre qu'il y a 200 personnes qui l'ont écouté, parce qu'il n'y a pas que ça, en fait, c'est juste ça. C'est arrêter de mettre tout sur, enfin, comme s'il fallait classer les types de musique, les instruments, etc., genre comme du mieux, en fait c'est souvent des questions pures et dures du classisme et du mépris de classe, du coup. Et voilà, moi je trouve que c'est un peu débile, et du coup qu'il faut y réfléchir en fait dans tous les strates de artistique, quoi.
Ouais, effectivement, pour rebondir là-dessus, je pense que un des premiers enjeux pour nous en tant qu'artiste, si on veut s'engager, si on veut faire bouger les choses de l'intérieur, c'est d'ouvrir la porte vraiment aux outils, de les mettre en libre service et de permettre cette pédagogie et cette éducation pour le plus grand nombre, en fait, finalement, parce que on aura beau finalement faire le maximum, on aura beau s'ouvrir le plus possible aux paroles autour de nous, aux différentes populations, aux différents vécus, etc. On ne sera jamais, jamais un client de tout le monde. On sera toujours exclusif d'une population, en fait. Toujours, toujours, toujours. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire aussi en termes de position hiérarchique de l'artiste et de travail d'ego, finalement, derrière ça. C'est pas parce qu'on est l'artiste, c'est pas parce que c'est nous qui passons la musique, c'est pas parce que nous qui sommes sur une scène un peu plus haut que les gens, etc. On peut rigoler, mais ça veut beaucoup dire, hein, symboliquement, qu'on doit rester impuni ou qu'on doit rester inactif, en fait, vis-à-vis de ces questions politiques-là. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'oppression qui se répercute dans les backstage, qui se répercute en off, etc. Et je pense que les artistes féminines pourront en parler mieux que moi. Et ça, c'est des choses qui vont pas changer tant que de l'intérieur, nous, en tant qu'artistes, on prend pas vraiment position. On n'arrête vraiment pas de donner du grain à moudre à certaines musiques. Donc il faut vraiment que nos outils, on les mette vraiment en libre service. C'est hyper, hyper important. Les gens, ils peuvent ne pas s'y intéresser du premier coup. Ils peuvent ne pas paraître avoir envie de s'éduquer du premier coup. Il faut leur laisser le temps de décanter. Si vous m'aviez questionné il y a 10 ans, je ne vous dirais pas ces choses-là. Il faut arrêter de considérer en fait, les gens comme des personnes figées. Les gens, ils évoluent. Les gens, ils sont capables en fait, d'apprendre. Peu importe leur vécu, peu importe leur milieu. Et ça, c'est extrêmement important à prendre en compte, je pense, dans nos vies.
Sibylle, je te laisse avoir le dernier mot.
En fait, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais sur la question des backstage. C'est que c'est vrai, on aura beau mettre tout en place pour que ça se passe bien au sein de l'événement pour le public, mais en fait, ce qui est valable pour le public doit être aussi valable pour le staff. Et nous, avec Rave Safe, c'est quelque chose dont on parle quand on accompagne les collectifs. On leur dit, c'est bien, vous avez mis en place une charte, un protocole, etc. Recueil de paroles en cas d'agression, vous avez mis de la RDR, c'est bien. Mais ça doit se poursuivre aussi dans les backstage, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui sont impunis parce que c'est l'agent de machin, parce que c'est bidule, parce que c'est lui qui donne l'argent. Mais en réalité, il faut aussi protéger les artistes, les amis des artistes qui n'ont pas forcément demandé à être agressés, qui n'ont pas forcément demandé à ce qu'on leur manque de respect. Et en fait, il faut vraiment être intransigeant également avec son staff. C'est-à-dire que tu auras beau avoir l'étiquette safe, déjà safe ça n'existe pas, il faudrait dire safer. Tu auras beau avoir cette étiquette safer de dire, nous on prend soin de notre public, regardez, on a des bénévoles, c'est trop bien. Mais si tes bénévoles, tu les traites pas bien, si ton staff, tu les traites pas bien, et que s'il y a des agressions, tu fais rien, ou qu'il y a des manques de respect, tu fais rien, pour moi, tout ton travail, il va à la poubelle. Ça sert à rien. C'est de la vitrine. C'est de la vitrine, vitrinage.
Et pour revenir là-dessus, voilà. Du coup, je tiendrai une émission ce samedi sur Colmier Radio, avec Héroïne 95, du coup, qui viendra parler de la labellisation en milieu festif, et tous les détriments que ça peut avoir sur le vécu des victimes de VSS.
Merci beaucoup à tous et à toutes. On va s'écouter une dernière musique, c'est Slut Commandment de Miss Bashful et MCRT, pardon, et on revient juste après.
Oh my god, this is real slut class. Hot girl shit, more like slut girl shit. I'm on my hot girl shit, more like slut girl shit. I'm on my hot girl shit, more like slut girl shit. I'm on my hot girl shit. Hot girl shit, more like slut girl shit. I'm on my hot girl shit, more like slut girl shit. Hot girl shit, more like slut girl shit. I'm on my hot girl shit, more like slut girl shit. Oh my god, that's a real slut classic. Ewy, ewy boy, go sit down and put on some chapstick. Oh my god, that's a real slut classic. Ewy, ewy boy, go sit down and put on some chapstick. Take a quick flick, go ahead.
C'était Slut Commandments de Miss Bashful. On va juste s'écouter, la chronique de Fabrice avant la fin de l'émission. Fabrice, je t'en prie, tu vas nous parler d'afro-électro, je crois.
Yes, exact. Comment ça va tout le monde dans le studio ? Ce mois-ci, j'ai à nouveau envie de vous faire voyager. Il y a un mois, je vous proposais comme destination le Moyen-Orient. Ce soir, on fusionne l'Orient et l'Occident. Un voyage entre la France et le Maroc. On va à Essaouira et à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Est-ce que vous vous demandez comment le faire en 3 minutes ? Un peu de patience et on en reparle dans quelques instants. Il y a quelques semaines, le mardi 15 octobre dernier, je vous faisais une suggestion à la fin de ma chronique. Si vous m'avez entendu et écouté, on s'est donc croisé le 16 novembre dernier dans le cadre du Festival des villes de musique du monde. Et si on s'y est croisé, on a voyagé ensemble dans le Trans Nawa Express. Ensemble, dans cette communion, on a écouté ça. L'extra en fond sonore, c'est Soudani Yayema, un track qui mélange musique électronique et musique mystique. Et là, il y a plein d'informations à vous donner. Tout d'abord, cette communion a eu lieu au Tamanoir, c'est le lieu des musiques actuelles de la ville. Le Tamanoir, c'est au 27 avenue Lucette Mazaleg, c'est accessible via la ligne 13 du métro à la station Les Courtilles. Là-bas, il y a des studios de production, des salles qui accueillent des ateliers musicaux, mais aussi et surtout une scène. Et c'est cette scène qui a accueilli les 5 membres de Trans Gnawa Express, composés de 3 musiciens Gnawa, un artiste aux multiples facettes et un vidéaste. Sur scène, on trouvait Ahmed Lamnoua, Hamouda Benzaïd, le Maalem Amin Bessi, Maalem pour maître, Sami Fati, violoniste et responsable des machines sur la scène, et Alex Van Lerberge, vidéo jockey ou VJ. Le public a vécu cette expérience pendant plus d'une heure, et si vous l'avez compris, c'était une expérience sonore, visuelle et mystique. En effet, la musique Gnawa apportée par les 3 premiers musiciens est une musique originaire d'Afrique du Nord liée au mysticisme musulman, autrement appelé le soufisme. À titre personnel, j'ai été transporté pendant 7 heures où j'ai navigué entre son acoustique et son électronique. J'ai même cru reconnaître des sonorités de la house. Autant vous dire que j'ai été conquis. Trans Gnawa Express est un projet à suivre de très près quand on aime la fusion de l'acoustique, de l'électronique et si vous êtes curieux du mysticisme, perso, je suis déjà à l'affût.
Merci beaucoup Fabrice, c'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup à tous et à toutes pour tous ces dialogues, c'était vraiment super enrichissant. Merci à Ouri, à Lara, à RL, à Sibi, merci à Laura, merci à Clément, à la Réal. On va poster des stories sur Insta, des posts aussi, donc vous pourrez retrouver les Instagram de toutes les personnes qui étaient autour de la table ce soir. Merci à tous et à toutes, on se retrouve début janvier pour l'épisode 4.